9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Olivier Roy.
Bonjour.
Vous êtes politologue et dans votre nouvel essai, L'aplatissement du monde, qui vient de paraître au Seuil, vous expliquez que le point commun de tous les débats qui polarisent aujourd'hui la société française, c'est qu'on veut imposer de nouvelles normes, de nouveaux interdits, des règlements, des lois qui vont s'imposer à tous. Qu'on soit progressiste ou conservateur, dominant ou dominé, identitaire ou universaliste, woke ou anti-woke, que l'on soit au fond Sandrine Rousseau ou Marine Le Pen, on est d'accord sur rien, mais la réponse est toujours la même, on veut étendre le domaine de la norme.
Oui, parce que je constate que depuis, disons, quelques dizaines d'années, on ne partage plus une culture commune de l'implicite, c'est-à-dire que les choses ne vont plus de soi. Tout doit être dit explicitement, qu'il s'agisse de sexualité, qu'il s'agisse d'adhésion à certains principes, comme les valeurs de la République, par exemple, ou les valeurs de la laïcité, ou les normes religieuses, d'ailleurs. Il faut chaque fois faire une sorte de déclaration d'intention, dire explicitement ce que l'on pense, ce qu'on a, et ce qu'on on attend que les autres pensent aussi. Donc, c'est mon point de départ, c'est ça, c'est cette crise de l'implicite, de l'évidence. Il n'y a plus rien d'évident. Hein. Et je pars, par exemple, de cette anecdote, qui est une simple anecdote, des gens qui montent dans les avions aux États-Unis avec des animaux de confort. Hein, alors, au début, c'est un petit chaton, puis après, c'est un chien, puis après, c'est un paon, c'est un coq, c'est un singe, etc., etc. Et les compagnies sont obligées de faire des règles. Bon, pourquoi ? Parce que ça ne paraît plus évident qu'il faut éviter de monter dans un avion avec un cochon, par exemple, voire avec un alligator.
Mais Olivier Roy, pendant un demi-siècle environ, après la Seconde Guerre mondiale, on a cessé d'étendre le domaine de la liberté sur le plan politique, sexuel, économique, artistique. Et depuis, c'est le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Qu'est-ce qui a changé ?
Alors c'est ça la grande question. À partir, disons, des années 45, ce sont la théorie des droits humains qui se développe, s'impose, rentre dans les constitutions, rentre dans la loi. Et puis à partir des années 60, on voit apparaître la liberté sexuelle comme valeur, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle l'émergence de l'individu désirant qui remplace en quelque sorte, ou qui dépasse plutôt que remplacer, l'individu rationnel de la déclaration des droits humains. Et puis, à partir de là, on a donc, d'une part, un développement effectivement des libertés. On voit très très bien comment les nouvelles libertés sont petit à petit inscrites dans la loi, que ce soit l'avortement, la contraception, le mariage pour tous, etc., avec des hauts et des bas. Mais enfin, en gros, jusqu'à notre période actuelle, c'est une extension du domaine de la liberté. Mais en même temps, parallèlement, et non pas après cette extension, parallèlement, on voit une extension du domaine de la norme. Et donc, moi, je vois un lien entre les deux. C'est-à-dire que plus le domaine de la liberté s'étend, plus ça ouvre l'espace, je dirais, à de nouvelles formes de domination et de violence. On s'est aperçu assez rapidement que la liberté sexuelle, c'est pas l'harmonie des désirs, mais que c'est très souvent, au contraire, le conflit des désirs. Et en particulier, que ça ouvre un espace à une autre forme de domination masculine, beaucoup plus directe, de prédation, je dirais. Alors, pour contrer... Il y a deux manières, si vous voulez, quand on s'aperçoit que on va vers des formes de fausse liberté, c'est-à-dire où on est dans des situations de domination exacerbée. Il y a deux manières de gérer le problème. Une, c'est le conservatisme, le traditionnalisme, c'est-à-dire le retour en arrière. Voilà, il faut revenir à la religion, il faut revenir à la famille traditionnelle. Mais on s'aperçoit que c'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait. On continue à, disons, étendre le domaine de la liberté, mais en même temps avec une demande de contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, montrer un désir sexuel, etc., il faut être parfaitement explicite. Il faut dire exactement ce qu'on demande, exiger le consentement éclairé du partenaire qui doit se répéter à chaque étape du rapport sexuel. C'est dans la loi californienne, par exemple, ça, et en Suède aussi. Et puis, ça, on voit comment ça arrive dans les règlements des universités, par exemple, et des choses comme ça. Sur la citoyenneté, on demande maintenant des engagements où le citoyen doit signer, dire, alors en particulier évidemment l'immigré, doivent signer, dire, consentir aux valeurs de la République, par exemple, ou bien la charte de la laïcité, où le citoyen doit dire explicitement, reconnaître explicitement les valeurs de la laïcité, qui ne sont d'ailleurs écrites nulle part. Donc on n'arrête pas de signer des chartes, des consentements, éclairés évidemment, et à être, disons, on a une bureaucratisation des relations sociales par ce simple fait de demande d'une explicitation permanente.
Olivier Roy, vous faites remarquer également que tous les mouvements aujourd'hui contestataires sont sur la défensive. Tout le monde se vit comme une minorité menacée.
Bon, qu'il y a les minorités traditionnelles, les immigrés par exemple, les classes populaires, etc. Mais on voit maintenant les catégories dominantes se considérer comme étant elles-mêmes en minorité. Alors ça, c'est clair par exemple chez les chrétiens, et les catholiques en particulier, qui d'une part affirment que la culture européenne est chrétienne de par son origine, mais d'autre part considèrent qu'ils vivent aujourd'hui assiégés, menacés, dans une culture qui est avant tout païenne. On voit dans la théorie du grand remplacement une certaine catégorie dominante, celle de, en gros, l'homme blanc, se déclare être aujourd'hui en situation de minorité et qui plus est de minorité menacée. On parle de la masculinité menacée, alors même que les féministes expliquent que les femmes sont une catégorie exploitée, opprimée. Donc tout le monde tient le discours de la minorité et le discours de la souffrance qui va avec.
On fait une pause, Olivier Roy. On se retrouve dans un instant.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec le politologue Olivier Roy qui publie « L'aplatissement du monde » aux éditions du Seuil. Vous dites que nous ne sommes pas dans une période de transition culturelle, comme on l'a dit souvent, mais de crise de la culture. Quelle est la différence pour vous ?
Alors, traditionnellement, je dirais, quand on a une crise d'une culture donnée, on a une espèce de transition et on arrive à une autre culture. Bon, la Révolution française a été une rupture brutale avec l'Ancien Régime, mais on voit comment s'est reconstituée une sorte de culture politique républicaine qui a duré jusqu'à maintenant. On voit comment le romantisme a apporté une nouvelle formulation littéraire un peu contre le classicisme lié à la monarchie, etc. De même, dans des relations beaucoup plus complexes et conflictuelles comme le colonialisme, on voit comment le colonialisme va acculturer, c'est-à-dire faire entrer dans sa culture des peuples dominants. Donc, jusqu'à maintenant, on a des transitions douloureuses, mais entre deux étapes, entre deux cultures. Et maintenant, et c'est ça mon hypothèse, qui est, je dirais, évidemment, une hypothèse, c'est que nous ne sommes pas dans le passage d'une autre culture. Nous sommes dans un système qui va rester un système déclaratif et normatif. Et on n'arrive pas à reconstituer un implicite partagé. Par exemple, on peut transformer la masculinité par une sorte de pédagogie, parfois pédagogie autoritaire, qui fait que les hommes vont spontanément, dans le fond, intégrer des formes de sexualité nouvelles qui vont permettre un épanouissement réciproque. Bon, j'ai des doutes. J'ai des doutes là-dessus. Je peux me tromper. En un sens, il vaudrait mieux que je me trompe. De même, en politique, on essaie de reconstituer un lien politique par la même forme de pédagogie autoritaire. Par exemple, en imposant les normes laïques dans les établissements scolaires. En disant, voilà, les jeunes n'ont pas compris ce qu'est la laïcité. On sait qu'ils comprennent pas. Et on le dit, bon, bah, alors on va leur expliquer. Et on va les former. Et s'ils refusent de se former, on va les sanctionner. On va les dénoncer, par exemple, à la police, etc., etc. Et ça ne prend pas. Ça ne prend pas. C'est pas du tout comment ça se passe chez les jeunes. Alors, chez les jeunes, on voit aussi, effectivement, un changement des relations entre genres qui est très, très net, mais qui vient d'eux-mêmes, qui n'est pas le résultat de cette pédagogie autoritaire. Et je vois cette difficulté de refaire culture, en particulier dans la question de la langue. Alors ça, c'est lié aussi à la globalisation. C'est qu'on parle une langue de moins en moins littéraire, pas parce qu'on est de moins en moins éduqué, formé, etc., etc., mais parce qu'on s'adresse à des interlocuteurs dont on n'est pas sûr qu'ils soient dans le même registre culturel que nous. Donc on va, en gros, simplifier spontanément son expression linguistique. Alors l'achèvement de ça, c'est dans ce que j'appelle le globish. C'est-à-dire, on est maintenant avec la globalisation, on développe une forme d'anglais, qui n'est pas le véritable anglais, parce que c'est un anglais coupé de la culture, de toutes les cultures anglaise, hein, que ça soit britannique ou américaine, et on va utiliser un vocabulaire qui met de côté tout ce qui est spécifiquement culturel à un peuple ou à une langue donnée, etc., pour être dans la pure communication.
Pour vous, Olivier Roy, après avoir lu votre livre, j'ai l'impression que, à vos yeux, au fond, c'est le conformisme qui est le grand vainqueur de tout ça.
Oui. Parce que à partir du moment où on supporte de moins en moins qui est, je dirais, le mystère de la personne, hein, qui est quelque chose qui échappe aussi bien à la loi qu'à l'expression, qu'à l'art, etc., ce qui s'échange, c'est ce qui se ressemble. C'est un espèce de marché, dans le fond, une espèce d'égalisation des marchandises qui circulent. Alors, par exemple, les émotions, c'est pourtant quelque chose qui est très personnel. Eh bien non, maintenant, les émotions, on doit les exprimer à partir d'une liste finie d'émoticônes et d'émotis. C'est-à-dire, vous devez désigner l'émotion que vous éprouvez à un moment donné. Ça n'est plus à l'autre de la sentir, de la percevoir. Ça n'est plus, si vous voulez, une relation entre deux personnes où se jouent des émotions. C'est un échange de tickets, de jetons, de billets. Je t'envoie mon émotion, tu me fais rire aux larmes, ou mon émotion, je pleure, ou mon émotion, je ris et je pleure en même temps, etc. On voit que des choses qui, normalement, ne pourraient pas être calibrées, sont effectivement calibrées, égalisées, et ça donne un espèce de conformisme par l'échange.
Et c'est ça, au fond, l'aplatissement du monde.
Oui, c'est ça. C'est un espèce d'espace où tout est marchandise échangeable. Ce qui explique pourquoi cette rupture, je dirais, dans la notion de culture va très très bien avec le néolibéralisme, qui est la marchandisation de ce qui ne se marchandisait pas autrefois, où tout d'un seul coup vaut quelque chose, même si ça vaut strictement rien. Et cette marchandisation systématique va aussi avec un prix à payer pour les émotions. C'est-à-dire le fait, par exemple, que les tribunaux, de plus en plus, prennent en compte les victimes, ce qui est normal, on dirait, mais où la souffrance de la victime va devenir la mesure de la faute de celui qui a commis le crime ou le délit. C'est-à-dire qu'on a une espèce de glissement dans la vision juridique des sociétés, où le crime n'est plus un acte contre la société, et donc un acte qu'il faut condamner parce qu'il met en cause le lien social, mais où le crime devient une espèce d'intrusion dans le psychisme d'une personne. Et il faut alors punir pour compenser également. Je ne condamne pas forcément ça, parce que dans le système français autrefois, on ne prenait pas du tout en compte la souffrance de la victime. Mais maintenant, on voit comment cette souffrance est en train de devenir plus importante que la question du lien social, de la mise en cause du lien social par le crime.
Merci Olivier Roy, je renvoie à votre livre « L'aplatissement du monde » qui vient de paraître aux éditions du Seuil. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Catherine Millet.